France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
Les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, les jeunes ne votent pas, les jeunes préfèrent militer dans des associations, les jeunes n'attendent rien des gouvernements qui se succèdent. Voilà, emballer, c'est peser. Trop rapidement caricaturer ces millénials qu'en effet les politiques appellent les jeunes, comme on dit les médias, les seniors, les politiques. La tranche 18-29, c'est celle qu'on met dans son programme quand il est plus que clair qu'elle souffre particulièrement. Ça a été le cas pendant la pandémie, par exemple. Et sinon, on croit qu'il faut lui parler sur TikTok pour l'atteindre. Est-ce que c'est vraiment le cas? Le sondage Ipsos Soprasteria pour France Inter, que l'on commande depuis ce matin, nous dit que les jeunes adultes s'intéressent à la politique, qu'ils ont des attentes vis-à-vis du prochain président, 64%, qu'ils ont l'intention de participer à cette élection à 59%. Ça devient vraiment intéressant quand on demande de noter chacun des candidats ou potentiels candidats sur 10, aucun n'a la moyenne. À la fin, la conclusion, ce serait en fait qu'abstentionnisme et désintérêt sont deux choses bien différentes. Ce n'est pas la politique qui recule chez les 18-24 ans, essentiellement c'est le vote. Ils n'ont pas le même rapport au vote que la génération précédente, ça veut dire pas le même rapport peut-être aussi à la démocratie telle que nous la connaissons nous. On le verra grâce à vos questions et grâce à nos invités ce soir. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Pierre. Soyez le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bah voilà, je voulais intervenir parce que j'ai 26 ans et je suis la politique depuis que je suis petit. Et en fait, pour moi, la seule personnalité aujourd'hui qui se dégage, qui me donne envie d'aller voter, c'est Christiane Taubira, sauf qu'elle se présente pas. Du coup, je me sentais obligé d'essayer d'intervenir ce soir.
Je sais pas si ça lui fera changer d'avis. En tout cas, ce qu'on a bien entendu, c'est que pour les autres, ça n'allait pas du coup. Alors, elle est loin, la présidentielle, Pierre, hein, mais en l'état, est-ce que ça veut dire que vous décidez de ne pas y aller ou que vous finirez par trouver quelqu'un, quitte à ce que ce soit par défaut? Est-ce que vous allez voter blanc? Si ça se passait demain, vous savez ce que vous feriez ou pas?
Bah, j'irai voter dans tous les cas de figure. J'irai sûrement voter par défaut. Mais j'irai voter parce que, enfin, je pense que au final, je peux pas laisser les élections à ceux qui vont aller voter si c'est une minorité d'un parti dans lequel je me représente pas du tout. Enfin, en tout cas, des idéaux dans lesquels je me représente pas du tout, je peux pas laisser les élections à ces gens-là, quoi.
Et est-ce que, Pierre, après je vous laisse, c'est premier, est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu un ovni dans, je sais pas si vous faites des études, ou est-ce que non, effectivement, vous êtes... Parce qu'il y a une différence entre 18-24 ans et 25-30 ans, en gros, parce qu'il y a le moment où on fait des études, et puis après, on rentre sur la vie active, on a une autre vision aussi de la vie politique autour. Est-ce que tous les gens qui sont autour de vous, Pierre, vos amis les plus proches, sont dans le même cas de figure que vous, et iront voter malgré tout?
Je pense qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui se désintéressent du vote et je pense que c'est vraiment dommage parce que justement ils laissent le pouvoir de décision à ceux qui vont voter et c'est pas forcément les bonnes personnes. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est dommage que les jeunes accordent aussi peu d'intérêt au droit de vote, quoi.
Merci beaucoup, merci vraiment Pierre pour cette jolie entrée en matière qui nous permet d'entamer cette discussion jusqu'à 20h avec nos invités. J'allais dire autour de cette table, non d'ailleurs, tiens, un peu plus loin, chez lui à Bordeaux, il y a Vincent Tibéry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités à Sciences Po, Bordeaux. Vous avez co-dirigé l'ouvrage Génération désenchantée, jeunesse et démocratie à la documentation française. Mathieu Gaillard est avec nous aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études chez Ipsos France et vous allez nous parler effectivement de ce sondage qui a quelques passages qui sont extrêmement intéressants effectivement sur la manière dont les jeunes perçoivent la politique. Et bonsoir Hugo Travers.
Bonsoir.
Vous êtes youtubeur fondateur de Hugo Décrypte et vous allez d'ailleurs en faire beaucoup pendant cette période présidentielle. J'ai envie de commencer avec vous, Mathieu Gaillard. Moi, j'ai l'impression qu'il rentre totalement dans votre sondage, en fait, notre ami Pierre, parce qu'il parle d'hésitation de vote, mais il ne parle pas d'hésitation de politique. Et ce sont deux choses qui sont très, très différentes.
Oui, complètement. C'est très intéressant parce qu'effectivement, on sent bien chez lui qu'il y a une véritable attente vis-à-vis de cette élection. Il nous dit qu'il est certain d'aller voter, mais il nous dit qu'il ne sait pas vraiment pour qui. Et finalement, quand on regarde les résultats de ce sondage, Ça rentre en résonance avec ce que nous disent l'ensemble des jeunes. Oui, les deux tiers d'entre eux nous disent qu'ils ont des attentes fortes vis-à-vis de cette élection.
Moi, j'étais même étonné du chiffre, en fait, c'est très haut.
Oui, c'est très élevé. Effectivement. Mais ils ont raison, hein. Finalement, dans les institutions de la Ve République, c'est l'élection présidentielle qui décide un peu de tout. Voilà, on a vu au précédent scrutin, les régionales, les municipales, qu'il y avait une abstention beaucoup plus forte.
Ouais. Et notamment, particulièrement chez les jeunes, d'ailleurs.
Exactement, parce qu'ils ont le sentiment que voilà, ce n'est pas là que leur vie va changer, à la présidentielle, beaucoup plus. Et ils sont 6 sur 10 à nous dire qu'ils vont aller voter de manière certaine à ce stade. Le problème, effectivement, c'est comment est-ce que on va un petit peu matérialiser cette opportunité, cette potentialité plutôt d'aller voter. C'est là où le bât blesse un petit peu, vous en parliez tout à l'heure. Les candidats ne font pas vraiment rêver les jeunes à ce stade.
Non, ils n'ont pas la moyenne. Et alors, ils sont tous à 3,5, 3,9. Ce qui est intéressant, c'est que en général, il y a quand même une... ils savent qui ils sont, grosso modo pour les plus... pour les Xavier Bertrand, les Emmanuel Macron, les Valérie Pécresse, les Yannick Jadot, etc. Ils savent qui ils sont, mais on a l'impression que ce qu'ils répondent, c'est « ouais, bof », en fait. Ce que j'entends, moi, c'est « ouais, bof ».
Oui, il y a une notoriété assez forte, en tout cas relativement forte, de la plupart des gros candidats, on va dire, à ce stade. C'est vrai, effectivement, il n'y a pas d'enthousiasme derrière un de ces candidats. Mais ce qui est assez logique, parce que ce que nous montre aussi ce sondage, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses, exactement. Et donc, assez logiquement, il y a différents types de valeurs, différentes idéologies derrière. Et donc, aucun candidat ne suscite l'engouement de la jeunesse de manière générale. Voilà, mais il reste 7 mois et on verra si un des candidats parvient vraiment à séduire les jeunes et à les mener aux urnes.
Vincent Tibéri, moi ce que j'entends dans le témoignage de Pierre, c'est lui qui le formule comme ça. Il dit que c'est dommage que les jeunes se désintéressent du vote. En effet, c'est l'acte de voter, en fait. C'est pas l'acte de faire de la politique, loin de là. C'est l'acte de voter. Est-ce que ça veut dire, en creux, que c'est au fond la forme de démocratie qui est la nôtre, qui ne fonctionne plus dans la génération qui vient là aujourd'hui, où ils ne se sentent ni représentés, ni représentants? Encore une fois, c'est pas la politique, c'est l'acte de voter.
Alors, si on regarde cet acte de voter, justement, déjà, il faut bien voir que la jeunesse est finalement plus proche aussi des classes d'âge actives de ce point de vue-là. Mm-hmm. C'est-à-dire que le désencastrement avec le vote, c'est quelque chose qui désormais touche aussi des quarantenaires, voire des débuts de quinquagénaires. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est effectivement une montée en puissance de ce qu'on peut appeler du vote intermittent. Ça ne veut pas dire qu'on se déplace pas quand l'élection est importante. Effectivement, en gros, ils ont effectivement, les jeunes comme les moins jeunes, intégré que désormais la présidentielle est quelque chose où se joue beaucoup de choses. Peut-être se joue trop de choses, mais où se joue beaucoup de choses, avec tout ce que ça peut impliquer en termes, justement, de figure présidentielle, de rapport à un candidat. Mais le vote, effectivement, ne suffit plus. Ne suffit plus, notamment parce qu'en fait, ce qui est terrible avec le vote, quand on y réfléchit, c'est que dans la Ve République, il est systématiquement associé à désigner un candidat. Mmh. En gros, une fois que nous nous sommes prononcés, notre voix ne nous appartient plus, elle appartient aux commentateurs, aux politistes, aux journalistes, aux responsables politiques, et ça s'arrête là. Or, il y a désormais tellement d'autres manières de participer, et notamment à travers la manifestation, les pétitions, voir les réseaux sociaux, hein, les likes, etc., etc. Ouais. Que, après tout, pourquoi utiliser le vote alors qu'on a des moyens beaucoup plus intéressants pour se mobiliser? Alors, mais le problème est qu'on sait aussi derrière que, ben, du coup, ça disjoint en termes de démocratie. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie représentative d'un côté, puis il y a une autre démocratie dans laquelle les jeunes se reconnaissent plus à travers les assos, à travers l'action concrète. Et quelque part, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est une vraie question.
Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut proposer autre chose que des formes traditionnelles, en fait, de participation politique? Hugo Travers qui a levé le doigt très gentiment autour de cette... Allez-y,
non, mais déjà, je voudrais... Alors, je vous rejoins complètement sur le constat qu'il y a des formes de renouvellement de l'engagement politique qui passent pas nécessairement par le vote, qui passent encore moins, j'ai l'impression, par l'engagement dans un parti politique, et ça passe par d'autres formes, notamment en ligne. Je pense que c'est un très bon exemple. Maintenant, j'ai beaucoup plus de doutes sur cette idée que les jeunes seraient au courant de qui sont les candidats et de bien savoir situer les différents candidats qu'on vient de citer là. Moi, je le vois au quotidien sur ma chaîne, c'est-à-dire que je parle à des jeunes qui parfois ont pour seule source d'information le travail qu'on fait sur notre chaîne. Et je vois quand on parle des différents candidats, quand on parle de la présidentielle en ce moment... J'ai beaucoup de doutes sur le fait que un Xavier Bertrand ou un Yannick Jadot soit très connu auprès des jeunes. Et il y a la question du nom, peut-être connaître le nom de la personne. Il y a la question après de connaître son programme, connaître concrètement même son positionnement politique. Et est-ce que Xavier Bertrand est à gauche ou à droite? Je pense que vous allez voir devant un lycée demander à des jeunes de 18-19 ans s'ils connaissent Xavier Bertrand et s'ils le mettent à gauche ou à droite. Je suis pas certain que on ait beaucoup de jeunes qui savent le situer. Et dire ça, c'est pas dire que les jeunes sont bêtes ou alors ne s'informent pas. Je pense que c'est simplement qu'il y a un vrai décalage en termes d'information sur ces sujets-là et qu'il y a un gros travail à faire à l'approche de l'élection présidentielle. Et moi, encore une fois, je le ressens au quotidien sur le travail qu'on fait d'information sur ces sujets.
Bonsoir Samuel.
Bonjour, bonsoir.
On vous écoute, Samuel.
Bonsoir. Alors, écoutez, alors moi, j'interviens. J'ai 19 ans, je suis à la fac, c'est la deuxième année de fac. Je fais une licence de géographie aménagement et avec un cursus également dans le domaine de la transition environnementale. Et je pense que notre avenir doit passer obligatoirement par une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, prioriser par rapport justement aux enjeux économiques. Hein, parce que dans 20 ou 30 ans, voire 40 ans, si on n'a pas un monde préservé, de toute manière, les activités économiques vont péricliter. Et donc là, le problème, en fin de compte, aujourd'hui, c'est qu'on voit trop, on a une vision beaucoup trop à court terme, c'est-à-dire les enjeux économiques à court terme, les pertes d'emploi, de chômage, et bien sûr tous les désastres qui peuvent en découler. Mais le problème, c'est que de toute manière, on va devoir le payer dans 30 ou 40 ans, et de toute manière, on va devoir subir un chômage accru, des problèmes sociaux, une migration climatique, parce que 30 ans avant, on n'aura pas voulu prendre les décisions adéquates.
Donc, mais du coup, Samuel, si je vous entends, le « de toute manière », ça veut dire quoi ? Donc, de toute manière, ça sert à rien, puisque on va se retrouver dans cette situation dans 20 ou 30 ans ou
Non, c'est-à-dire que je pense qu'il faut mettre les bouchées doubles, il faut faire un moratoire sur la mondialisation accrue. Je pense que les accords du GATE doivent vraiment être mis en question. Je pense que c'est une hérésie qu'il soit toujours d'actualité aujourd'hui. Donc un moratoire sur la mondialisation, pas forcément comme le voudrait Madame Le Pen, mais plutôt un moratoire sur la mondialisation pro-environnementale.
Mais du coup, Samuel, est-ce que ça vous envoie aux urnes ou est-ce que ça vous éloigne des urnes ?
Oui, bien sûr, bien entendu. Je voudrais voter d'ailleurs pour le parti d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Et je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas une meilleure coalition dans les partis de gauche. Parce que le problème, c'est que c'est toujours très fragmenté. Si on les additionne, c'est ce qu'on a vu au régional, les partis de gauche, ils étaient majoritaires.
Ce qui est un autre débat, Samuel, mais on a bien compris effectivement les additions. On a bien compris comment ça fonctionne. En tout cas, ça vous envoie jusqu'au vote. Mathieu Gallard, dans les préoccupations, là aussi, Samuel, il est de son âge et de son temps, et heureusement, les préoccupations, elles disent ça. Elles disent environnement, elles disent justice sociale, elles disent égalité, y compris égalité du genre, etc. Et peut-être qu'il est là aussi le décalage, en fait. Il y a un langage, il y a des préoccupations, qui sont évidemment très très loin de ce qu'on voit et qu'on entend à la télévision et dans les débats.
Exactement, peut-être que effectivement vous faites référence à des débats dont on entend beaucoup parler en ce moment, autour de l'immigration, autour de l'insécurité.
Alors ça, c'est des thèmes qui viennent, mais qui sont tellement loin.
Exactement, pour les jeunes, c'est relativement secondaire et en tout cas beaucoup moins élevé que ce qu'on enregistre auprès des Français. Alors que pour nos 18-29 ans, les deux principales préoccupations aujourd'hui, c'est les difficultés en termes de pouvoir d'achat qui arrive en tête, ce qui est assez logique. Quand on est étudiant, quand on entre sur le marché du travail ou quand on commence sa vie professionnelle, c'est évidemment des problématiques qui sont particulièrement fortes. Et puis la deuxième, c'est effectivement la protection de l'environnement. Là encore, ça rejoint tout ce qu'on a pu voir sur les mobilisations des jeunes au cours des dernières années sur ces sujets.
Il y a autre chose qui m'intéresse, Vincent Tibéri, là-dedans. Et c'est d'ailleurs Hugo, tout à l'heure, qui disait les gens se reconnaissent plus très bien dans droite et gauche. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on est dans une vieille logique et dans un vieux découpage, dans quelque chose qui est finalement qui est dans de vieilles idéologies, en fait, et que même ce découpage-là, en fait, est un découpage qui, pour lesquels les jeunes et surtout les primo-votants, les 18-24 ans, tout ça, c'est une lecture qui leur parle pas du tout, en fait.
Alors, ça pourrait leur parler s'il y avait un peu plus de polarisation gauche-droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la polarisation, elle tourne en ce moment autour de l'immigration, l'intégration, sur lesquelles, en fait, très clairement, Mathieu Gallard l'a dit, mais on le retrouve dans les baromètres comme ceux de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, l'immigration, l'intégration, enfin, c'est des choses qui, en fait, sur lesquelles les jeunes sont en avance sur leurs parents, voire même leurs grands-parents. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas, a priori, de problème d'immigration. Ouais. En tout cas, c'est pas le problème principal. Le problème principal, effectivement, c'est l'environnement, c'est les inégalités sociales. Et donc effectivement, si la campagne tourne autour d'un enjeu qui n'est pas le leur, ça commence à être un petit peu problématique, ce d'autant plus qu'on les caractérise d'une certaine manière, on les considère comme des wok dans certains débats, on les considère comme ne comprenant pas la laïcité dans un autre. Dans un troisième, ce matin sur votre antenne, on avait une Valérie Pécresse qui proclamait qu'il fallait faire une épreuve de l'engagement au baccalauréat, comme si les jeunes n'étaient pas engagés. Ils sont engagés. Donc vous voyez, il y a une forme de caractérisation par le négatif des jeunes qui en soi pose question. Après, ben effectivement, derrière, il faut aller les chercher, il faut proposer des choses. Mais quelque part, c'est là où on retrouve le problème de la représentation par le personnel politique, par les partis. Mmh. En fait, quand on regarde l'enquête d'Ipsos, c'est quand même frappant que Yannick Jadot n'est pas connu par 37% de ces jeunes répondants.
Ouais, pas plus.
Donc
en
ça
effet,
dit des choses.
Il est pas plus haut que les autres. Il est pas. Alors il y en a un qui est plus bas que les autres. Je trouve ça plutôt très intéressant parce que c'est lui qu'on le voit le plus souvent en ce moment et dont on parle le plus souvent. Donc c'est quand même assez intéressant. Là, ça marche pas du tout. Ça prend pas non plus. Mais en effet, et c'est d'ailleurs très curieux. Moi, c'est ce qui m'a étonné aussi, Hugo Travers. On a l'impression que les jeunes parlent d'environnement toute la journée, de cette préoccupation-là. Ils sont effectivement dans les manifestations. Et le taux de notoriété de Yannick Jadot est assez bas.
Je pense que ça illustre assez bien le décalage entre et le fait que des jeunes peuvent s'engager sans forcément passer par la case politique, de rejoindre un parti ou d'aller voter forcément à des élections. Même s'il y a quand même eu un petit sursaut lors des élections européennes en 2019 avec Europe Écologie Les Verts qui avait fait des plutôt bons scores auprès des jeunes. Mais c'est vrai que pour moi, ça montre déjà ce sujet de l'environnement. Ça montre que on a une génération qui est consciente que c'est un problème qui est pas un problème pour le futur, pour l'avenir. C'est un problème qui est présent ici. Et évidemment, d'autres problèmes existent. On a parlé du pouvoir d'achat pour les jeunes. C'est un sujet qui est très ancré et on a beaucoup parlé ces derniers mois de la détresse des étudiants. C'est un problème qui est toujours présent. On a des centaines de jeunes qui font la queue pour aller récupérer des repas ou autres avec l'association Linky. Donc c'est un problème qui est là, mais l'environnement aussi est un problème qui est urgent, qui est très présent. On parle pas de l'avenir, on parle en fait vraiment du présent, et c'est intéressant de voir que la jeunesse est mobilisée là-dessus. Et sur, encore une fois, la connaissance des personnalités politiques, moi je nuancerais beaucoup, c'est-à-dire que il y a cette connaissance des noms, il y a aussi la connaissance des programmes et du fond. Et c'est aussi là tout un travail qui est à faire sur, d'un point de vue vraiment un enjeu pour les médias et même aussi à l'école éventuellement, d'aller faire comprendre concrètement qu'est-ce qui se cache derrière la gauche, la droite, les différents partis. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus.
Et là-dessus, Vincent Tibéri, je crois que c'est Anne Muxel qui disait, je ne sais plus où je l'ai lu, mais il n'y a pas si longtemps, qui disait l'école doit s'ouvrir aux politiques d'urgence. Faut-il que l'école effectivement s'ouvre aux politiques? J'ai même envie de poursuivre la question. En fait, est-ce que c'est ça le souci réellement ou est-ce que, enfin, c'est tout, vous voyez, c'est toujours la faute de l'éducation nationale qui doit s'ouvrir un peu plus? Pas forcément.
Alors, c'est pas forcément toujours la faute de l'éducation nationale. On lui demande de faire beaucoup de choses. Mais effectivement, quand on regarde la manière dont l'école construit les futurs citoyens, en gros, c'est leur apprendre à obéir, c'est leur apprendre les devoirs, c'est pas leur apprendre à débattre. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'on a d'autres systèmes éducatifs qui permettent aux étudiants, aux élèves, de s'exprimer, de pouvoir argumenter, de découvrir qu'effectivement, il y a des opinions différentes et que ce n'est pas grave. C'est comme ça que fonctionne une société. La tolérance, c'est pas empêcher les gens d'avoir des opinions. C'est de permettre d'accepter qu'ils en aient des différentes. Et on voit que en Autriche, les partis sont présents dans les gymnasiums et donc du coup, il y a de la politique. En Finlande, les élèves ont le droit de parler. Aux États-Unis, ils ont le droit de parler. En France, effectivement, on attend qu'ils aient 18 ans et encore après 18 ans, on continue à les considérer comme pas forcément très des citoyens qui on peut vraiment faire confiance. Donc effectivement, on n'a pas confiance dans notre jeunesse ou dans nos jeunesses de ce point de vue-là.
Et si on est très concret, aujourd'hui au collège-lycée, les cours d'éducation civique, c'est environ 18 heures par an. On peut se dire que c'est beaucoup, mais en fait c'est assez peu quand on sait qu'en réalité, les profs d'histoire-géo ont tendance à raccourcir ces temps-là pour faire davantage de cours d'histoire parce qu'ils sont en retard par exemple sur leur programme. Donc c'est déjà aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Et quand on parle de vote, oui, c'est pas étonnant que les jeunes votent massivement à la présidentielle, puisque c'est assez connu que le président, c'est quand même en France avec la 5e République une personnalité qui a un rôle majeur. Mais quand on parle des autres élections, c'est là aussi qu'on voit que la jeunesse il y a un taux d'abstention qui est particulièrement important. Et c'est là où on revient à cette question d'information et à cette question d'éducation. Est-ce que je vais aller voter aux élections régionales si je suis pas au courant de à quoi sert le conseil régional? Pas forcément. Et c'est là aussi qu'au-delà de la question du jeu politique, des différents candidats, des partis qui montent, qui descendent ou autres, il y a un vrai travail de pédagogie sur à quoi servent aussi ces institutions.
Et alors, Mathieu Gaillard, on va pas se mentir non plus, dans votre sondage, effectivement, il y a 64% des jeunes qui ont de vraies attentes vis-à-vis de l'élection présidentielle. Et si on se met à regarder de qui on parle, en fait, on se dit que évidemment qu'il y a une disproportion incroyable entre les jeunes diplômés, les jeunes non diplômés, les jeunes citadins, les ruraux. Enfin, au bout du compte, ce que ça veut dire, c'est que les jeunes qui sont plus défavorisés, eux, n'y sont pas. Et c'est cela qu'il faut essayer d'attraper par le col, en effet, qui seront beaucoup plus difficiles à toucher que ceux qui font des études et qui ont, y compris des parents, CSP+, etc.
Oui, mais c'est un constat de façon qu'on peut faire pour les jeunes, mais qu'on peut faire pour l'ensemble de la population. Quand vous êtes effectivement issu de catégories plus défavorisées, plus populaires, quand vous avez un niveau de diplôme plus faible, quand vous êtes moins intégré socialement de manière générale, vous avez tendance à moins vous intéresser à la politique, ou en tout cas vous avez tendance à avoir le sentiment que la politique, le monde politique vous parle moins et que le monde politique peut moins répondre à vos attentes. Donc effectivement, je pense que fondamentalement, cette fracture démocratique, ça doit avant tout être aux responsables politiques de la réduire en allant vers ces personnes, en leur faisant des propositions qui les touchent, avec de la communication qui les touche, par des moyens pour les toucher.
Julien, bonsoir, justement. Bonsoir, Julien.
Bonsoir à toute l'équipe de France Inter.
On vous écoute, Julien.
Pour votre débat très intéressant, j'ai 34 ans et à mes 18 ans, j'étais vraiment impatient de pouvoir voter pour la première fois. Aujourd'hui, je trouve par contre que le système de vote est un peu en décalage avec la digitalisation de la société française et je me demande pourquoi, à une époque où on peut payer ses impôts en ligne, on ne peut toujours pas voter, sachant que ça peut-être produirait beaucoup d'économies sur les papiers, les enveloppes, le système de tri. Donc aujourd'hui, tous les jeunes ont un téléphone, sont sur les réseaux sociaux. Ma génération, on est tous sur Internet, mais on ne peut toujours pas voter en ligne.
Merci Julien, question qui revient à chaque fois dans ce genre de débat. Vincent Dibéry, moi je suis assez curieuse, est-ce que ça suffirait? Est-ce que c'est juste une question pratique?
Alors pas forcément ou pas seulement. C'est-à-dire que en fait, ce qui rend le vote quand même particulier quand on le pratique, c'est tout le décorum qui va avec. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est obligé de se déplacer, on va voir un assesseur, on passe dans un isoloir. Donc quelque part, c'est un acte qui compte. En gros, voter à la présidentielle ou voter à une élection, ça compte en termes de en termes de symbole. Plus, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Florence Fauché, d'autres collègues, ça compte beaucoup plus que envoyer un SMS un samedi soir pour éliminer un couple de danseurs.
Oui.
Effectivement, du coup, il se passe quand même des choses plus importantes. Et on se rend compte, en fait, que dans les pays qui ont mis en place un vote électronique ou un vote par correspondance, c'est pas toujours, ça booste pas forcément la participation. Alors vous allez me dire, oui, mais aux États-Unis, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé parce qu'il y avait une polarisation telle que tout le monde s'est déplacé, en fait, des deux côtés, dans les deux camps. Donc, en gros, c'est vraisemblablement avant tout ce qu'on propose en tant que candidat, le débat qui est organisé, la manière dont dont les médias en parlent, qui va permettre de mobiliser les jeunes.
Voilà. J'ai une autre question, Vincent Tibéry, pour vous, et je regarde Hugo Travers en même temps, parce que c'est également pour lui, on parlait des accès à la politique. Moi, je me demande, en fait, si précisément les hommes politiques ne sont pas tous complètement plantés en allant sur Twitch, en allant sur TikTok, en croyant que c'est en allant chercher les outils qui sont théoriquement ceux des jeunes qu'on va les faire venir au vote. Est-ce que vraiment c'est d'abord un aussi simple que ça? Et pardon, mais j'ai presque envie de dire aussi, est-ce que les jeunes sont aussi naïfs que ça aussi de penser que moi je vais voter pour celui-là parce que je l'ai vu sur Twitch ou sur TikTok? Est-ce qu'ils ne sont pas tous plantés là-dessus, à votre avis, Vincent Tibéry?
Alors, moi, je pense que ouais. Dans un premier temps, enfin,
il y a Hugo qui fait non avec la tête.
Hugo en reparlera, mais en gros, dans les enquêtes qu'on a pu faire, notamment une enquête qu'avait fait l'Ipsos pour nous, on avait 18% de jeunes qui savaient réutiliser soit les réseaux sociaux, soit uniquement Internet pour s'informer en politique. Ce qui veut dire que il y a encore des jeunes. Alors, il y en a plus beaucoup qui écoutent la radio, mais il y en a qui regardent la télé, il y en a qui utilisent les médias plus classiques, et donc vraisemblablement qu'ils attendent autre chose que simplement être traités de jeunes. En gros, je pense que McFly et Carlito, ça suffit pas.
Ouais.
Hein, derrière, il y a des vrais, derrière, il y a des vrais enjeux. Et quand on parle de rentrée scolaire, ben, je pense que si vous voulez les convaincre de venir voter pour vous, ben, faut parler inégalité, faut parler Parcoursup, faut parler moyens pour l'enseignement et pour l'enseignement supérieur. Et puis, il faut penser aussi à tous les autres. Hein, effectivement, les ni en études, ni en emploi, à tous ces décrocheurs. Et là, très clairement, c'est pas McFly et Carlito qui va les convaincre, quoi.
Hugo.
Voilà, là-dessus, il y a plusieurs choses déjà sur... Non, mais sur l'accès au vote et le vote en ligne. Évidemment, ça peut éventuellement aider. En tout cas, à voir après comment ça fonctionne à l'étranger. Mais concrètement, moi, si je suis un jeune et que je suis en ligne, je peux faire plein de choses en ligne. C'est pas parce que je peux voter en ligne que je vais aller voter en ligne. C'est-à-dire qu'on en revient à cette question de l'information. Si je suis pas intéressé par ça, si je suis pas au courant de pourquoi est-ce qu'on vote, quel est l'enjeu, quels sont les programmes des différents candidats, j'ai aucun intérêt, aucune envie à aller voter. Donc on en revient à cette question de l'information. Après, sur la question des outils, moi je trouve ça intéressant qu'on ait des personnalités politiques qui arrivent sur les réseaux sociaux, y compris des réseaux sociaux un peu plus difficiles d'accès, disons, comme un TikTok où c'est des formats courts et un public qui est très jeune. Moi, je trouve ça très bien et je pense que c'est quelque chose que doivent faire les personnalités politiques en restant elles-mêmes le plus possible, que doivent faire aussi les médias le plus possible. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie de faire sur Hugo Décrypte, de se dire où est notre génération ? On passe du temps sur YouTube, sur Instagram,
mais c'est intéressant
TikTok,
parce que sur
on
Hugo...
va aller faire de l'information là-bas.
Mais ce qui est intéressant sur Hugo Décrypte, par exemple, c'est qu'au fond, alors bien sûr, le canal est différent, mais la forme est assez basique, pardon, c'est pas du tout méchant ce que je dis, mais il n'y a pas des trucs qui pètent dans tous les sens, des couleurs, des machins qui font buzz, etc. Au contraire, c'est même quelque chose de une espèce de mini JT en fait sur la chaîne YouTube. Donc à la fois effectivement vous tâchez d'aller chercher les plus jeunes et en même temps avec un format qui est le format qui celui de presque d'un journal en fait. Donc le format de nos parents
avec quelques différences, c'est-à-dire que moi je fais pas effectivement il y a pas trop de blagues sur mes vidéos. Vous regardez mes vidéos d'actu du jour sur YouTube avec mon équipe, il y a très peu de blagues, c'est assez sérieux. Mais il y a pas besoin de faire des blagues pour intéresser les jeunes à l'actualité, à la politique. Encore une fois, ceux qui suivent nos résumés d'actualité sur YouTube, Instagram ou autre, c'est des jeunes qui ne s'informent pas autrement et ce qu'ils viennent chercher là, c'est une information déjà à portée de main, parce que on est présent là où les jeunes se trouvent, mais c'est aussi une information qui se veut accessible. Et quand je dis accessible, c'est certes sur le format, mais c'est aussi sur la forme et sur le fond, de faire en sorte de s'assurer que on s'adresse au plus de monde possible et que même si jamais on n'est pas passionné de politique ou passionné d'actualité, avec la chaîne, on est en mesure quand même de s'informer et de comprendre ce qui se passe.
Nicolas, bonsoir. Nicolas.
Bonsoir.
Ah super, bonsoir Nicolas.
Bonsoir, donc il y a pas mal de sujets qui ont été évoqués, sur lesquels je vais pas forcément revenir, comme les sujets auxquels les jeunes s'intéressent. Je pense que tout a été dit par rapport à ça. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais attirer l'attention des hommes politiques, c'est un petit peu leur moralité, dans le sens où tout parti politique confondu, il n'y a pas de juste personne en disant ça en particulier, mais il y a beaucoup trop d'affaires pour que beaucoup de jeunes leur donnent leur confiance. Et je pense que c'est un vrai sujet. Quand on voit par exemple qu'il y a une liste énorme de métiers auxquels on peut pas avoir accès en ayant une casier judiciaire et que pour être député par exemple, ça pose pas trop de soucis, je pense qu'il y a un vrai problème de moralité et c'est quelque chose auxquels les jeunes, je pense, sont assez sensibles et il y a une perte de confiance par rapport à ça. Mais pour en revenir un peu au sujet et au débat, il y a quand même, je pense, une importance de voter. Je pense que c'est toujours dans les têtes de beaucoup de jeunes malgré tout. Mais il y a forcément un vote qui est plus par défaut, plus que par conviction malheureusement.
Et ça, c'est quelque chose qu'on partage rapidement avec ses aînés. C'est marrant parce que l'aspect de la morale, Mathieu Gallard, vous ne l'avez pas posé, la question. Moi, je trouve ça intéressant que Nicolas, qui a 26 ans, 25 ans, la mette sur le tapis, en fait.
Non, c'est vrai que dans toutes les enquêtes qu'on peut faire, on voit qu'effectivement, de manière générale, les Français et aussi les jeunes ont une mauvaise opinion des responsables politiques et que cette mauvaise opinion, elle s'appuie en partie, effectivement, sur le sentiment que ces dirigeants politiques ne sont pas honnêtes. Mais après, fondamentalement, j'ai l'impression que cette cassure, cette fracture entre les élites politiques et les Français, elle vient avant tout d'une crise du résultat, du sentiment que les choses ne s'améliorent pas fondamentalement en France, malgré les alternances, malgré les différents présidents, et que si les choses allaient bien, si le pouvoir d'achat s'améliorait, si le chômage diminuait, et si la France était une société apaisée, même si on avait des dirigeants peut-être pas énormément corrompu, mais un peu corrompu, ça se passerait quand même mieux. Donc c'est un aspect, je ne suis pas sûr que ce soit l'aspect principal.
Vincent Tibéri, moi, il y a une chose en vous lisant qui m'a frappé, c'est ce que vous appeliez le vote devoir. Effectivement, il y a eu une période où il y avait une sorte de vote devoir. À quel moment ça disparaît, en fait? À quel moment cette notion du devoir disparaît intégralement du fait de voter?
Alors, elle n'a pas encore disparu.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est une culture, un rapport au vote qu'on retrouve encore chez les plus âgés des baby-boomers et leurs aînés immédiats, les gens nés avant-guerre. Mmh. Effectivement, là, ça correspondait parfaitement à une logique et une manière de faire de la politique. C'est-à-dire qu'au vote devoir correspondait également une forme de remise de soi aux élites. Mmh. Et donc, du coup, on se sentait pas forcément compétent. C'est Bourdieu, Gaxi qui parlait de ça. On se sentait pas forcément compétent. Et donc, on s'en remettait à une élite du soin de décider pour nous. Cette culture, on la retrouve encore aujourd'hui. Hein. On la retrouve notamment dans tout ce qui touche autour de Nicolas Sarkozy parmi un certain nombre d'électeurs UMP, par exemple. Et ce vote devoir, progressivement, il disparaît au profit soit d'un vote de droit, c'est-à-dire on vote parce qu'on considère qu'on a quelque chose à dire, on vote parce qu'on considère qu'il y a des choses à faire, ou alors une forme de vote d'indifférence, effectivement, qui est de plus en plus dominant dans les jeunes générations, c'est-à-dire les post-baby-boomers et désormais les millennials, et en fait, notamment parce que eux vont avoir un rapport à la politique beaucoup plus distendu, distancié. C'est-à-dire que quelque part, c'est même l'impact du diplôme, c'est-à-dire que plus une génération est récente, plus elle est diplômée, plus elle a les moyens de traiter de l'information, et donc moins on peut lui faire quelque chose. Moins on peut essayer de les convaincre, essayer d'utiliser de la communication pour les convaincre. Et donc en fait, ça renvoie à ce que votre auditeur disait sur la défiance à l'endroit de la moralité, c'est-à-dire qu'en gros, on les croit pas parce que effectivement, dans un certain nombre de cas, il y a eu des cas célèbres, il y a un président qui vient d'être condamné quand même, et donc ça met le discrédit sur l'ensemble d'un système. Donc à partir de là, on est face à des citoyens distants. Parce que diplômé, parce que capable de s'informer.
Estelle, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci. Je voulais partager mon ressenti concernant... Je rejoins Nicolas par rapport à cette question d'immoralité. Je voulais partager mon ressenti par rapport à ça. J'écoute, pour le coup, moi j'écoute la radio, notamment j'écoute France Inter le matin, et notamment les interviews. Et c'est vrai que ce que je ressens, c'est surtout la guerre des primaires et ce côté on ne sait pas trop finalement si la personne qui se présente le fait avant tout pour elle ou pour son parti et c'est vraiment ce petit côté c'est vraiment très étrange et on a un peu du mal à s'identifier à savoir vraiment qui a vraiment envie de représenter un parti, notamment moi je viens d'une famille qui est profondément socialiste et actuellement c'est la primaire de gauche et je n'ai absolument aucune idée de quelles seraient les personnes qui m'intéresseraient et voilà, je voulais partager mon ressenti par rapport à ça, ce problème de ralliement dans les partis et je voulais juste préciser, je voulais juste dire à Hugo que je voulais le remercier pour le contenu qu'il propose tous les jours sur les réseaux, je trouve qu'il fait vraiment un contenu d'intérêt public. J'ai 22 ans et je pense que grâce à lui les jeunes se portent mieux.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Et il est content Hugo, justement sur cette remarque d'Estelle, Hugo, le fait que en fait c'est juste une guerre d'ego et au fond ce sont les idées qui comptent et pas les gens. Non, en fait, dans le vote, on a l'impression que ce sont les gens qui comptent d'abord et les idées derrière.
Ouais, je pense que c'est aussi une question de système aussi. Et certains appellent, alors ça va revenir, je pense, à l'approche de la présidentielle là, à une 6e République où le pouvoir du président de la République serait moins important, etc., etc. C'est des vraies questions, je pense, qui méritent d'être posées. Est-ce que l'abstention est aussi une conséquence de tout ça? Est-ce que le rejet de la classe politique est une conséquence du système politique? J'ai pas la réponse, mais c'est des questions, je pense, qui méritent d'être posées. Et sur la question de la moralité, c'est intéressant. Moi, lors des élections régionales, la veille ou le jour J, j'avais tweeté simplement une sorte de petit appel au vote, pas au vote pour un candidat précis, mais simplement un petit rappel pour ceux qui me suivaient de dire n'oubliez pas d'aller voter aujourd'hui. Et j'ai vu pas mal de retours de personnes qui me disaient moi j'ai pas envie de voter aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que j'en parle là? C'est que il y a peut-être une abstention qui est une forme d'indifférence, mais il y a aussi une abstention grandissante, j'ai l'impression, et pas que auprès des jeunes, qui est un véritable rejet du système de vote et une envie de faire de la politique autrement, de façon bien différente, jusqu'à du coup ne pas voter. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre et pour voir concrètement qu'est-ce que ça implique. Mais c'est quelque chose que moi j'ai ressenti aussi ces derniers mois.
Mathieu Gallard, on l'entend, on le sent dans vos chiffres. C'est ce qu'on disait au début de l'émission. Au fond, une forme de non-adhésion à la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, en fait, dans ces chiffres-là.
Oui. Là encore, effectivement, il y a sans doute dans une partie de la jeunesse comme dans une partie de la population de manière générale le sentiment qu'effectivement effectivement de nos institutions qui font peut-être reposer trop de pouvoir et trop de symbolique aussi sur la seule personne du président de la République sont un petit peu dépassées. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe dans des pays étrangers, par exemple en Allemagne en ce moment où il y a des négociations de coalition qui vont aboutir probablement à un gouvernement qui représentera 50% voire plus de 50% des électeurs, ça peut en tout cas poser question de manière légitime. Je suis d'accord de ce point de vue-là.
Alors là, en Allemagne en l'occurrence, c'est la proportionnelle et en même temps, la formation d'un gouvernement en Allemagne peut prendre plusieurs mois. C'est le moins qu'on puisse dire. La dernière fois, ça avait été extrêmement long. Donc, on a tendance à idéaliser des systèmes qui sont ceux de nos voisins, pas forcément meilleurs non plus.
Mais des gouvernements qui ensuite durent 4 ans. Et les gouvernements ne chutent pas en Allemagne, alors qu'en France, un Premier ministre dure, je crois que c'est en moyenne 2 ans. Donc voilà, on parle de l'instabilité liée à la proportionnelle. C'est vraiment largement une idée reçue.
Rapidement, Hugo Travers, il nous reste une minute. J'ai cru comprendre que vous alliez embaucher chez vous avant la présidentielle. Il y aura du monde autour. Ça veut dire qu'il y a du et un peu pour faire plaisir sûrement à notre amie Estelle, il y a du gros travail pédagogique en fait auprès des jeunes et chez les jeunes.
J'en suis persuadé d'aller sur les réseaux sociaux et de faire ce travail d'information, de pédagogie sur déjà quel est le rôle d'un président de la République, comment ça fonctionne, et d'aller voir ensuite les programmes des différents candidats pour essayer de les décrypter, d'aller interviewer aussi les différents candidats.
Et est-ce que vous allez y aller d'ailleurs, parce que la dernière fois vous l'avez fait en 2017, ouais. Vous l'aviez fait pour LCI. Est-ce que du coup là on est dans un truc inversé où ils viennent chez vous, ils viennent sur la chaîne en fait pour parler.
Ils viennent parce que eux ça peut être intéressant pour eux aussi d'aller parler aux jeunes, mais nous on a intérêt aussi d'aller faire ce travail d'information. Et du coup aujourd'hui on est 14 journalistes sur Hugo Décrypte, sur la chaîne à temps plein, et voilà, c'est une équipe qui grandit parce qu'il y a aussi beaucoup de travail d'information à faire là-dessus.
Écoutez, on suivra ça en tout cas à tous les âges avec beaucoup d'intérêt. Je vous remercie tous vraiment de votre participation, merci pour vos très nombreuses questions, portez-vous bien.